Au revoir, il est midi et demi.
Merci Pavel, tu viens de donner l'heure très précisément. On quitte Tramelan et on va retrouver le Noirmont avec nos collègues du journal de la mi-journée. En particulier, c'est David Racana qui vous présente ce journal. Bonjour.
Bonjour, le journal de la mi-journée est donc en direct du Noirmont aujourd'hui pour marquer la fin de la deuxième semaine de l'opération d'immersion Génie Suisse de la rédaction de la Radio Suisse Romande. Pendant 15 jours, nos journalistes ont partagé le quotidien de 6 Jurassiens pour voir comment le lieu dans lequel on vit forge les opinions politiques à l'approche évidemment des élections fédérales. Deux d'entre eux seront avec nous dans ce journal sous l'œil du sociologue Alain Clémence et de l'une de nos reporters immergés, Christelle Domingeau. L'actualité du jour, c'est encore et toujours la suite des démêlés judiciaires de DSK aux USA. L'ex-patron du Fonds monétaire international sera remis en liberté sous caution et placé sous haute surveillance dans l'après-midi. Accusé, vous le savez, de tentatives de viol et d'agression sexuelle sur une femme de chambre d'un hôtel de New York, Dominique Strauss-Kahn doit maintenant préparer sa défense en vue du procès. Nous verrons avec le médecin légiste Thomas Krompecher quels indices peuvent prouver qu'il y a eu contrainte dans ce genre d'affaires. Assemblée des délégués de l'Union syndicale suisse aujourd'hui à Berne, l'USS demande un durcissement des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes avec des contrôles renforcés et des sanctions plus lourdes pour les entreprises qui pratiquent le dumping salarial, nous dira Christian Favre. Et puis nous irons à Neuchâtel aussi où l'organisation d'un brunch par le Conseil d'État en vue des votations sur la fiscalité fait polémique. Météo, ça se gâte. Les premières averses sont attendues cet après-midi le long des Préalpes et du Jura avant de s'étendre aux régions de plaine. Le mercure affichera 23 à 25 degrés au meilleur de la journée. La matinée de demain s'annonce assez bien ensoleillée, mais la pluie sera de retour l'après-midi. Alternance d'averses et d'éclaircies dimanche et retour du soleil lundi, nous dira Stéphanie Collère à la fin de ce journal. Et avant de tirer les enseignements de cette semaine d'immersion au Noirmont avec nos invités, place à l'actualité du jour, dominée aujourd'hui encore par la remise en liberté sous caution imminente de l'ex-patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, accusé d'agression sexuelle sur la femme de chambre de l'hôtel dans lequel il séjournait à New York. Il va maintenant devoir prouver son innocence, une innocence qu'il clame haut et fort. Dans ce genre d'affaires, la police scientifique récolte des témoignages, des preuves circonstancielles et matérielles, comme les lésions constatées sur les individus et les transmissions de traces entre un accusé et sa victime. Thomas Krompecher est médecin légiste et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il a expliqué à Céline Tso qu'une griffure ou des traces de coups sont des éléments importants, mais pas forcément déterminants. Écoutez.
S'il y a des lésions graves, il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. S'il y a des lésions légères, alors leur évaluation est très difficile. Absence de lésions corporelles, ça prouve rien du tout.
Si on parle maintenant de la transmission de traces entre deux personnes, par exemple un agresseur et une victime, ce sont quel type d'éléments ?
Ça peut être les liquides corporels, comme salive et sperme, ou des poils pubiens et cheveux. Toutes ces traces peuvent être sur le vêtement et sur le corps n'importe où.
Donc les preuves, en fonction de où elles se trouvent, sont plus ou moins à charge, plus ou moins déterminantes. Si on trouve un poil sur le bleu de travail de la femme de chambre ou, vous m'avez dit, dans son slip, c'est pas du tout pareil, évidemment.
Absolument. Donc il faut évidemment pas seulement noter la présence, mais aussi d'où ça vient. Les traces biologiques sur le corps d'une victime, ça prouve seulement un contact, mais ça prouve pas si c'était violente ou consentante. Seules des lésions corporelles plus ou moins graves peuvent donner des éléments en faveur d'une agression. Le reste, ce sont des témoignages. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de juger une suspicion d'agression sexuelle.
Dominique Strauss-Kahn a été menotté tout de suite lors de son arrestation. C'était pas forcément innocent?
C'était premièrement pour le cinéma, mais évidemment aussi pour empêcher d'aller se laver ou autre.
Et ces mesures, ces preuves matérielles récoltées sur DSK et la victime, ainsi que sur les lieux de l'agression présumée, ont été évaluées par des experts scientifiques et soumises à la justice avant d'être présentées à l'appréciation du grand jury. Au Japon, la compagnie TEPCO en charge de la centrale nucléaire de Fukushima annonce une perte record de plus de 13 milliards de francs pour son exercice annuel bouclé en mars dernier. Le patron de l'entreprise a fait savoir qu'il allait démissionner. La centrale a été touchée de plein fouet par le séisme et le tsunami du 11 mars dernier qui ont causé d'importantes fuites radioactives et la mise à l'arrêt définitif de 4 des 6 réacteurs du site. Au Pakistan, les talibans ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée perpétré ce matin contre un convoi du consulat américain à Peshawar, dans le nord-ouest du pays. Un passant a été tué et 2 agents de sécurité américains légèrement blessés. Le Pakistan enregistre un regain de violence depuis la mort d'Oussama Ben Laden le 2 mai dernier. Il faut durcir les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. C'est le mot d'ordre défendu aujourd'hui par l'Union syndicale suisse, réunie en assemblée des délégués à Berne. L'USS demande des salaires minimums, des contrôles renforcés et des sanctions plus lourdes pour les entreprises qui pratiquent le dumping salarial. Un dossier délicat sur lequel la gauche et les syndicats jouent gros, Christian Favre.
Oui, un dossier délicat, vous l'avez dit, très disputé ces derniers jours. L'UDC, par exemple, veut sortir de l'accord de libre circulation. On a même entendu dimanche dernier le ministre de l'économie, Johann Schneiderhammann, évoquer un temps une éventuelle renégociation de l'accord. Pour les syndicats, la partie est délicate. Ils doivent aujourd'hui rassurer des travailleurs désécurisés par les nombreux abus constatés sur le monde du travail, puis éviter qu'ils se laissent convaincre par le vent de panique soufflé par l'UDC. Les orateurs ont tout à l'heure été très nombreux à évoquer des tensions croissantes entre travailleurs suisses et étrangers ce matin. L'USS a donc commencé par rappeler que la libre circulation est fondamentale pour la Suisse, son économie, ses places de travail. Sortir du système ou le renégocier ne ferait que renforcer la pression. Mais il faut réagir, durcir les mesures d'accompagnement. Un programme de protection des salaires a été adopté ce matin. Il demande une lutte efficace contre les abus, plus de contrôle dans les entreprises et sur les chantiers, des sanctions dignes de ce nom pour les entreprises qui profitent de la libre circulation pour tirer les salaires vers le bas, et enfin, mesure phare, la mise en place d'un salaire minimum.
À Zurich, les chauffeurs des transports publics ont entamé une grève partielle ce matin pour protester contre leurs conditions de travail. Plusieurs lignes de tram sont perturbées, mais les transports publics zurichois ont mis en place un système de bus de remplacement. Les accusations selon lesquelles le gouvernement neuchâtelois dilapide l'argent du contribuable pour la campagne du 19 juin sont infondées. Les 5 conseillers d'État viennent d'annoncer qu'ils payent de leur poche le repas qui marque le lancement de la campagne à Nouk-Henri.
Oui, cette fois-ci, l'attaque de Benoît Couchepin face au comportement du Conseil d'État, accusé de violer les droits démocratiques, est un flop. Le citoyen neuchâtelois qui avait obtenu l'annulation de la dernière votation sur les crèches et la fiscalité par le tribunal fédéral s'en est pris ce matin au brunch organisé par le gouvernement pour lancer la campagne du scrutin reportée au 19 juin prochain. Benoît Couchepin accuse les autorités de violer l'article 34 de la Constitution fédérale en utilisant l'argent public pour faire valoir ses arguments. Or, le président du gouvernement, qui avait garder le silence ce matin vient de l'annoncer. Les 5 membres du Conseil d'État paient de leur poche la réception qui se tient en ce moment en présence des partisans des 2 lois soumises à votation et de la presse. Les 130 personnes invitées le sont donc par les ministres et non par le contribuable, une manière de marquer l'importance que revêt cette votation par le Conseil d'État. Reste toutefois un doute, le gouvernement a-t-il pris la décision de financer lui-même la réception ce matin en réaction au communiqué de Benoît Couchepin, ceci afin d'éviter un nouveau camouflet politique. Claude Nicetti s'est empressé de balayer les suspicions, la décision remonte à plusieurs semaines et a été formellement avalisée avant-hier lors de la séance hebdomadaire du Conseil d'État. L'information pourra être vérifié dans 30 ans lorsque le procès-verbal de cette réunion sera rendu public.
Le yodel part à la conquête du monde. Le chanteur suisse Christian Zender est en tournée en Chine grâce au soutien de Pro Helvetia. L'occasion pour le musicien de se mesurer à des artistes mongols. C'est la carte postale chinoise hebdomadaire de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud.
C'est la Mongolie et la Suisse réunies en Chine pour un yodel décoiffant. Les 2 chanteurs, l'Asiatique comme le Suisse, sont aussi experts en chant diphonique, une technique qui consiste à produire plusieurs sons simultanément. Et finalement, les traditions musicales des 4 coins du monde souvent se rejoignent. Christian Zender.
Pour moi, le yodel, on le retrouve partout, dans chaque continent. C'est pas le yodel de la Suisse ou d'Autriche, c'est tout à fait différent, mais la technique, c'est la même chose. C'est pour ça que je m'intéressais beaucoup de créer un style de yodel global.
Yo yodel global dans un monde global, mais en invitant Christian Zender, la Suisse veut afficher ses particularités.
Nous sommes des ambassadeurs culturels. C'est important de dire, venez écouter, voyez qu'est-ce qui se passe en Suisse. C'est pour ça que nous sommes ici, pour une ouverture qui est pour moi toujours très très importante. Moi je trouve au niveau de la politique, c'est très difficile ici, mais c'est très nécessaire de faire des choses comme ça. C'est aussi une force culture.
Et comme le yodel est sans parole, pour une fois, les censeurs chinois auront pu un peu se reposer.
La carte postale chinoise d'Alain Arnaud que l'on retrouve tous les vendredis dans le journal de la mi-journée. Textes et photos sur notre site internet rsrinfo.ch.
Radio Suisse Romande, en immersion.
Et le journal de la mi-journée est en direct de l'hôtel du Soleil au Noirmont, une imposante bâtisse du XVIIIe siècle, entièrement rénovée avec ses façades blanches, ses volets rouges et sa grande cave aménagée en salle de réception. C'est l'heure du repas en ce moment et il y a pas mal de monde, on va dire que c'est quasiment plein. C'est ici que notre équipe de journalistes en immersion a installé son quartier général pour l'opération Génie Suisse, qui consiste, vous le savez, à suivre les habitants de trois localités romandes emblématiques pour voir comment le quotidien forge les opinions politiques. Deux d'entre eux sont avec nous. Yetessa Smailai, vous êtes étudiante, vous avez 21 ans. Denis Boischat, 63 ans, éleveur de chevaux, agriculteur. Avec nous également Alain Clémence, professeur de sociologie à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, qui nous livre chaque semaine ses enseignements sur l'opération. Et nous sommes également avec Christelle Domangeau, qui fait partie de notre équipe de reporters, immergée avec Magali Philippe et Pierre Yeni. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, à l'écoute de toutes ces séquences entendues sur nos ondes cette semaine, on se dit que ça va plutôt bien au Noirmont. Le village a des soucis, on a envie de dire comme partout, mais on est quand même dans une ambiance nettement plus apaisée que la semaine dernière à Aunay, Christelle Domangeau.
Oui, c'est sans doute aussi une réalité romande, hein. Il y a aussi des endroits qui vont bien en Suisse romande. C'est vrai que par rapport à Aunay, ce qui nous a frappé, c'est que ici les gens, enfin à Aunay, les gens parlaient de leurs difficultés, de ce qui les gênait au quotidien, des tracas. On a parlé des incivilités, de criminalité, de problèmes d'intégration, des crottes de chiens aussi. Ici, au contraire, on a ressenti des gens qui avaient envie de défendre le lieu où ils habitent, qu'ils ont choisi d'habiter pour la plupart, en tout cas tous ceux qu'on a suivis. Des gens qui sont fiers du coin de pays où ils habitent, quitte parfois peut-être à enjoliver la réalité. Mais bon, c'est vrai quand même que les incivilités, il n'y en a peut-être pas autant qu'à Aunay. La police, par exemple, moi j'ai vu une seule patrouille en deux semaines ici. Et puis ils nous ont dit, bon, aujourd'hui il faisait beau, alors on est sorti de notre voiture, puis on a fait un petit tour au Noirmont. Donc ça montre bien que le climat est quand même serein ici.
Vous partagez aussi ce constat, Alain Clémence, vivre à la campagne, c'est forcément une ambiance beaucoup plus sereine qu'en ville.
Je ne sais pas si c'est lié au fait de vivre à la campagne, mais disons, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il y a quand même 10 fois moins d'habitants au Noirmont qu'à Aunay. Donc ça fait déjà un changement d'échelle important. En revanche, étant donné que je dois avouer que je viens tout près d'ici, ce qu'il y a eu toujours au Franche-Montagne, c'est que je crois un fort attachement à la région, plus aussi une certaine crainte quand même d'être un peu à côté, d'être un peu marginalisé, mais qui fait que les gens ont une identité forte et donc la défendent fortement et la défendent très bien. Il y a toute une histoire là derrière quand même qu'il faut peut-être évoquer. Il y a la question jurassienne, mais aussi il y a eu une question de place d'armes, il y a eu une question liée aux résidences secondaires. Peut-être maintenant il y a les éoliennes ou d'autres choses, mais il y a donc une identité, une défense très forte de sa région.
Ce qu'on a entendu cette semaine autour de cette commune de 1600 habitants, c'est représentatif de la vie des autres villages ailleurs en Suisse romande.
Alors probablement qu'il y a une grande partie des choses qui sont similaires, parce que d'une part parce qu'il y a eu un changement ces dernières années qui fait que avec la télévision, internet, la radio, les jeunes sont disons relativement pareils un peu partout puisqu'ils s'habillent à peu près la même chose, ils écoutent la même musique, ils parlent des mêmes choses. Et en même temps, il y a des spécificités locales qui sont liées à la fois, disons, à la beauté du village, aux activités qui sont offertes aux jeunes dans le village, à la qualité de la formation ou à d'autres aspects plus typiques. Je ne sais pas, il n'y a pas dans tous les villages une manifestation comme le chant du gros. qui est énorme par rapport à un petit village comme celui-ci. Et donc, ça existe ailleurs aussi dans d'autres villages probablement. Mais ça montre un certain dynamisme dont les gens peuvent légitimement être fiers.
C'est vrai que ce maillage, hein, par certaines associations, par certaines manifestations, on l'a très fortement ressenti aussi pendant cette immersion. On voit que les gens se connaissent, se côtoient, ils discutent beaucoup. C'est d'ailleurs, je pense que les séances du Chant du Gros, de préparation du Chant du Gros, c'est un endroit où on parle aussi politique, où on parle de beaucoup de choses et où les relations entre les habitants du village se font. Il y a 800 bénévoles pour 1600 habitants, donc c'est forcément quelque chose qui lie les gens.
Denis Boischat, vous êtes éleveur de chevaux, agriculteur, vu de la ville, entre guillemets, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose comme ça dans ces petits villages comme le Noirmont, mais on trouve finalement l'essentiel, la gare, la poste, l'église, vous manquez de rien finalement ici.
Alors, on manque absolument de rien. Pour le tourisme, il y a des routes pour aller se promener en vélo, à pied, on peut même faire de la varap, du canoë, au doux, on peut faire du cheval, du char attelé. On est vraiment une belle région.
C'est ce que je disais, hein, ils sont fiers de leur région. Quand même.
Et puis au niveau des institutions aussi et des services dont vous avez besoin, ces services de proximité, tout est là.
Voilà, exactement.
Vous avez 21 ans, il était ça, Smaila, et votre famille est originaire du Kosovo. Vous avez maintenant la nationalité suisse. Vous vivez au Noirmont depuis 17 ans. On a beaucoup parlé de problèmes d'intégration, évidemment, la semaine dernière, du côté donné. Pas de souci pour vous dans votre famille. Vous vous sentez pleinement intégré ici?
Actuellement, oui. Donc, on est complètement intégrés. Mais c'est vrai qu'au début, donc à notre arrivée ici en Suisse, donc mes parents ne savaient pas parler le français, nous non plus. Et c'est vrai que ça a été difficile avec mon frère donc de s'intégrer. Mais une fois qu'on a appris la langue, on a pu parler avec mes deux derniers frères. Donc, pour eux, ça a été moins difficile que pour nous, en fait.
Un village heureux, donc, mais aussi périphérique, on va rajouter des guillemets, avec des avantages et des inconvénients. Écoutez.
Moi, j'aurais plus certaines personnes de ma famille ici, j'y remettrai plus les pieds. Si, ils s'éloignent tout. Et puis, c'est aussi pour ça que je dis, moi, je pourrais pas y vivre, déjà, au niveau des transports. Mais c'est vrai que le jour où je suis partie d'ici, c'était un soulagement pour moi, parce que je me disais, oh, je vais enfin revivre.
Et ces propos, vous les avez enregistrés lors de votre immersion au Noirmont, Christelle Domangeau. Nous sommes toujours en direct dans le cadre de notre opération Génie Suisse. Il y a ceux qui reviennent habiter ici après leurs études, d'autres qui sont partis, qui ne reviendraient pour rien au monde. Vous qui avez 21 ans, il était ça à Smaila, il y a un âge où on a envie de faire la fête, sortir, voir peut-être du monde, plus que le monde qu'on trouve ici au Noirmont. Vous vous sentez pas trop à l'étroit?
Non, pas du tout. Donc j'ai un avantage, c'est parce que j'ai aussi mon permis de conduire, donc je peux me déplacer en voiture. Je ne suis pas non plus très alcool, donc pour ça, il n'y a pas de souci pour rentrer, j'ai jamais eu de souci. Donc on habite non plus pas très loin des villes, donc 20 minutes en voiture, c'est Chaux-de-Fonds, 45 minutes en voiture, c'est de Léman, donc 35-40 minutes, c'est Bienne. Donc je pense qu'on habite vraiment au cœur, je pense qu'on est le cœur des Franches-Montagnes, on peut facilement se déplacer, donc pour moi, il n'y a pas de souci.
On sent aussi cet éloignement dans votre quotidien d'éleveur de chevaux, d'agriculteur, Denis Boischat. On vous a entendu dire dans nos émissions que la Berne fédérale ne comprenait rien à vos préoccupations, vous vous sentez quand même un peu isolé?
Moi, je me sens isolé, c'est-à-dire que dans notre région, on se plaît beaucoup. Le problème qu'il y a, nos dirigeants, les lois, protection d'animaux, tous ces lois, des fois, ça me chicane un peu. Mais ma foi, on doit faire avec.
Parce que vous ne vous sentez pas compris, finalement?
Ouais, on n'est pas trop compris. Le problème, je pense, il y a trop de gens, en théorie, mais pas assez en pratique. Les gens de terre, il y en a de moins en moins.
Votre regard sociologue a également été frappé par cette peur d'être oublié, cette dépendance parfois des villages de campagne aussi vis-à-vis de la ville, Alain Clémence.
Oui, alors le témoignage de M. Boischat me touche beaucoup parce que, étant donné que je suis fils de paysan et que mon père me disait déjà ces choses-là à l'époque, à savoir que c'était des ingénieurs agronomes de la ville qui venaient lui dire comment il fallait travailler. Mais disons que la question aussi est très liée à l'aspect de l'ancien et du nouveau. Je dis pas ça sur le fait de dire que l'un ou l'autre est meilleur que l'autre, parce qu'il y a des choses intéressantes à garder dans la tradition, la manière de faire, et il y a sûrement des choses aussi bonnes à prendre dans ce qui est nouveau. Mais dans ce que disait monsieur Boischat aussi à la radio que j'ai entendu, c'est le fait finalement un peu paradoxal de continuer d'élever des chevaux, alors que ça devient de plus en plus difficile, et en même temps d'être aussi dans le nouveau, c'est-à-dire de faire des choses pour des touristes. Mais probablement que parmi ces touristes et ces citadins, c'est ceux-là qui font pression pour que les animaux soient traités différemment, qui sont des gens qui s'alarment lorsqu'ils se baladent dans les pâturages parce qu'ils voient une vache qui va bêler, parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et j'ai souvent entendu des témoignages ici, au fait, effectivement, que cette espèce de on va l'appeler cette sensibilité ultra à la condition des animaux est effectivement complètement en opposition avec une tradition paysanne. Mmh. Qui est lié au fait que on a une claire idée sur la distinction qu'il y a entre, je dirais, les hommes et les animaux.
Une autre idée reçue à laquelle on peut tordre le cou à l'issue de cette immersion au Noirmont, et c'est justement un peu aussi le but de cette opération, Génie Suisse, on a tendance à croire que la vie est figée comme ça, avec peu de mouvements, de population, c'est pas le cas. Il y a des gens, on l'a vu, qui quittent le village, qui reviennent après, d'autres qui veulent surtout pas revenir, il y a des familles qui arrivent, comme votre famille à vous, y était ça. C'est un élément que vous avez remarqué, Christelle Devangeau, lors de cette immersion.
Oui, il y a d'ailleurs une de nos témoins qui a fait ses études de tourisme à Sierre. Ensuite, elle a travaillé sur la rivière Lémanique. Donc, pour beaucoup de gens, elle aurait trouvé son bonheur, quoi, dans une région très industrialisée avec beaucoup de choses à faire. Et ben non, elle a eu envie de revenir. Et en fait, c'est l'appel, on peut appeler ça l'appel des pâturages, mais c'est plutôt l'appel des racines. Parce qu'en fait, je pense que ce qui fait revenir beaucoup les gens ici, c'est leurs liens sociaux. Et elle, son cercle d'amis était ici et c'est pour ça qu'elle rentre. Et ce qui est ressorti, beaucoup des témoignages qu'on a eus, c'est ce maillage, oui, ces cercles d'amitié. Et c'est ça aussi qui retient les gens ici, outre le fait que la vie est tout à fait agréable, on n'est pas loin des choses. L'éloignement, au fond, il est dans la tête et peut-être dans la tête des autres et pas des gens d'ici. Ici, les distances sont relatives.
Le Noirmont, village où il fait bon vivre, un peu excentré quand même, on sent aussi une certaine fragilité. Écoutez.
J'étais pendant 5 mois en chômage technique. J'ai déjà fait beaucoup attention parce que le chômage technique, ça paye 80%. Pour une famille comme moi, par exemple, avec 4 gosses, c'est un peu compliqué.
Et ce témoignage, c'est celui de votre père, Yetessa Smailai, une situation qui illustre bien la fragilité économique du Noirmont. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de chômage technique de votre père ?
Alors c'était très difficile parce que donc déjà ça fait 16 ou 17 ans qu'il est donc dans la même entreprise, et quand il a été au chômage technique, il a toujours été en fait habitué à travailler, donc il avait aussi un peu changé au niveau émotionnel. Et puis bon, c'est vrai qu'après le salaire il diminue, donc il gagne plus que 80%, et avec 4 enfants, donc on a tous des besoins différents, donc s'il y en a un qui a besoin de quelque chose, les 3 aussi ils vont suivre, donc c'est assez difficile à ce niveau-là. Donc c'était une période très difficile aussi pour nous, parce qu'on devait supporter aussi les mauvaises humeurs de mon papa, donc mais une fois qu'il a été rappelé au boulot, ça allait beaucoup mieux, et je préfère quand il est au travail qu'à la maison.
Et on passe en tout cas moins inaperçu dans un petit village que dans une cité à l'image de Donné. Si la situation économique se dégrade, on a tendance un peu à pointer du doigt ceux qui sont pas d'ici, les étrangers, ceux qui sont pas de chez nous. Est-ce que vous avez ressenti ça à ce moment-là?
Alors, j'ai ressenti ça pas tout de suite, mais juste après, parce que j'habite juste en face d'une entreprise d'horlogerie aussi. Et puis, de sortir le matin quand j'étais en apprentissage, parce que c'était à l'époque où j'étais en apprentissage qu'il a été au chômage technique, et de sortir de chez moi et de voir toutes ces voitures avec les plaques françaises, c'est vrai que c'est surtout ça qui m'énervait, en fait.
Quand on habite un village comme ça, 1600 habitants, tout le monde se connaît, on vient de le dire, tout se sait, c'est un avantage, mais c'est une petite fragilité aussi quand même, Alain Clémence.
Oui, alors bon, sur la question de la circulation et des gens qui bougent, disons qu'il y a aussi pas de mystère, c'est que quand on est en Franche-Montagne et qu'on veut faire une formation après l'école obligatoire, on est obligé de partir. Donc il y a une certaine logique dans cette circulation, et il y a des difficultés pour revenir quand on fait certaines formations. Bon, moi j'ai fait de la sociologie, c'est assez difficile de venir travailler ici, même si j'adore y revenir. Voilà, mais c'est vrai que dans un petit village, il y a une certaine vulnérabilité, je dirais, qui est liée sur le fait de dépendre des autres. Hein, on est un peu attiré par les endroits où se prennent les décisions, et c'est vrai que les décisions qui concernent par exemple les agriculteurs maintenant se prennent de plus en plus ailleurs, de même que les décisions concernant l'implantation d'entreprises, etc., ça se prend à l'heure. Donc il y a une crainte de dépendre des autres, de dépendre des touristes, de dépendre des décideurs, de dépendre des politiques. Mais aussi une autre crainte, peut-être, effectivement, dans un petit village, quand tout le monde se connaît, c'est que même si c'est très créatif, même si on fait des idées, Lorsqu'on est un peu particulier, un peu différent des autres, on est davantage vu, on peut se moquer davantage de nous. Alors c'est un avantage parce qu'en même temps, on est supporté par les autres, par le village. Mais c'est aussi ce désavantage qu'il n'y a pas, par exemple, à Honay, où là, on peut passer de manière plus anonyme, finalement, mener une vie en quelque sorte plus normale comme les autres.
Christelle Domingeau.
Oui, l'anonymité peut aussi être un problème, parce qu'on a senti des gens très seuls à Honay. Moi, je voulais revenir sur cette question de dépendance. Moi, j'ai l'impression qu'au fond, même à Honay ou partout, on se sent dépendant de décisions qui viennent d'ailleurs. Ce sentiment-là n'est pas forcément lié à un village. Il y a un peu ici, mais c'est pour des professions comme M. Boischat, qui est agriculteur, et les décisions se prennent à Berne. Et ce décalage entre Berne et le lieu où on habite, j'ai l'impression qu'on l'a aussi ressenti à Honay.
Oui, mais je pense que c'est pas le même type de dépendance, parce que Honay, le problème d'Honay, c'est qui au départ était finalement un village pas plus grand que celui-ci, c'est plutôt d'avoir été envahi par une zone résidentielle gigantesque, et donc de devoir faire face au fait que les emplois se situent ailleurs. Mais Honay va pas disparaître dans ce cadre-là, tandis que pour les villages des Franches-Montagnes, il y a quand même un souci permanent de dire on va préserver notre magnifique endroit parce que ça plaît aux touristes, mais en même temps ça signifie qu'on dépend de plus en plus des touristes parce qu'il faut faire comme les touristes le souhaitent. Et on se dit il faut aussi donner peut-être.
Il n'y a pas
que le tourisme. Oui, non, mais on peut aussi maintenir des entreprises horlogères qui ont été très fortes ou d'autres types d'entreprises. Mais on voit quand il y a une crise, comme quand il y a eu la crise d'horlogères déjà dans les années 70, c'est des régions qui subissent ça de manière très très forte parce que de plus en plus les centres de décision sont plus loin. Le problème n'est pas seulement pour les Franches-Montagnes, c'est aussi pour le Jura ou pour d'autres régions qui, de fait, apparaissent de plus en plus loin de là où se prennent les décisions. Et donc, ça ne veut pas dire que concrètement, ça les empêche de vivre, parce qu'ils font toujours des choses, comme je disais tout à l'heure, qui sont assez créatives, mais ça crée parfois un sentiment où on a peur d'être oublié. Et le fait de défendre si fortement sa région, c'est bien aussi le signe, du point de vue de cette identité, qu'il faut qu'on se défende, parce que les autres tendent à nous oublier ou à nous ignorer.
Le journal de la mi-journée est toujours en direct du village jurassien du Noirmont dans le cadre de l'opération Génie Suisse avec nos invités. Si on vous donnait finalement la possibilité d'habiter ailleurs, vous quitteriez le Noirmont, Denis Boischat?
Non, jamais. Non, jamais. J'aurais trop l'ennui de nos sapins et de nos pâturages.
Et vous, Smiley, vous partiriez du Noirmont si on vous en donnait la possibilité?
Je pense pas, non, parce que j'ai grandi ici, je me suis habituée à la tranquillité, et puis comme j'ai fait déjà une expérience donc en ville, ça m'a pas du tout plu, où il y a plein de monde partout, donc je préfère la tranquillité, donc je resterai ici.
Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce journal de la mi-journée en direct de l'Hôtel du Soleil au Noirmont. Nos deux témoins, Yetessa Smiley, étudiante de 21 ans, Denis Boischat, 63 ans, éleveur de chevaux, agriculteur. Merci aussi à Alain Clémence, professeur de sociologie à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, que l'on retrouvera la semaine prochaine à Monté, et à Christelle Domingeau, qui fait partie de notre équipe de reporters immergés avec Magali Philippe et Pierre Yeni. Il nous reste encore à prendre des nouvelles du ciel avec Stéphanie Collère.
Il y aura de beaux moments de soleil cet après-midi, malgré une nébulosité qui pourra être intense. Les cumulus seront souvent nombreux sur le relief. Quelques averses ou orages éclateront dans un premier temps en montagne. Mais dès la fin de l'après-midi et en soirée, les précipitations pourront déborder sur les régions de plaine. Il fera un maximum de 25 degrés. Le 0 degré se situera non loin de 3000 mètres. Les vents sont faibles à toutes les altitudes, mais des rafales seront possibles près des foyers orageux. Demain, le temps sera assez ensoleillé. Dès la fin de la matinée, des cumulus se développeront sur le relief. Ils seront suivis d'averses ou d'orages. D'abord en montagne, mais ils pourront déborder dans les régions de plaine en fin d'après-midi et en soirée. Il fera un minimum de 12 degrés et un maximum de 25. La limite du 0 degré se maintiendra vers 3000 mètres.
La météo avec VZ, le conseiller financier de votre retraite, vzch.com.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Frédéric Tsen, Cyril Delmer, Sylvain Michel et Sergio Pliguer, nos techniciens immergés. Forum est également en direct du Noirmont ce soir, dès 18h sur la première.
Et puis à ne pas manquer, demain dans le journal de la mi-journée, le best-of de l'opération Génie Suisse au Noirmont, ce sera aux alentours de 12h40. Détails, infos, photos et vidéos sur notre site internet geniesuisse.rsr.ch. Excellent week-end, excellente après-midi à l'écoute de nos programmes, il est 13h.